14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans On est fait pour s'entendre en ce lundi et à l'aube d'une semaine riche et variée. Nous sommes ensemble et en direct pendant une heure et j'attends vos réactions au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Et j'imagine qu'elles seront nombreuses. Car en cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, il nous paraît essentiel de revenir sur une forme de maltraitance qui a toujours lieu en toute légalité dans notre pays. Il existe encore donc en notre bas monde ce que l'on appelle des thérapies de conversion. Ces thérapies, c'est ainsi en tout cas qu'elles se présentent, prétendent guérir les personnes homosexuelles ou transsexuelles de ce qu'elles considèrent comme leur déviance. Alors comment est-il possible que ces pratiques existent encore en 2021 dans notre pays ? Et alors que Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, affirme dès ce matin son engagement à ne rien laisser passer face à toute forme de discrimination et violence faites aux personnes LGBT. Une proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été déposée à l'Assemblée nationale en juin 2020 par la députée Laurence Van Kunnebroek. Mais son examen n'est toujours pas à l'ordre du jour, alors que l'Angleterre, qui est plus réactive justement, avec la reine Elisabeth herself, qui a confirmé l'interdiction prochaine des thérapies de conversion. On vous explique tout donc en direct jusqu'à 15h30 avec nos invités que je vais accueillir dans un instant. Mais on commence avec Benoît Berthe. Soyez le bienvenu sur RTL. Benoît, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Vous avez 32 ans, vous nous appelez depuis Londres et on sent dans votre histoire que Londres a été pour vous une étape très importante pour sortir de cet enfer dans lequel vous avez été plongé. On vous retrouve dans un documentaire qui sera diffusé demain sur Arte, mais que l'on peut aussi retrouver sur arte.fr, un documentaire intitulé « Homothérapie ». Documentaire édifiant, Benoît, c'est ainsi que j'ai fait votre connaissance. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qui vous est arrivé et ce que l'on vous a fait subir ? Benoît, vous avez 32 ans aujourd'hui. À quel âge avez-vous réalisé que vous aimiez les hommes ?
C'était vers l'âge de 10 ans environ.
Oui. Vous êtes, on vous avait parlé d'homosexualité à la maison ?
Moi, mes parents sont des personnes croyantes, pratiquants. Et donc, à la maison, je suis désolée, j'entends un tout petit écho par contre.
Oui, on va essayer de régler ça.
Merci beaucoup. Mais du coup, oui, à la maison, le sujet était abordé, mais de manière assez négative plutôt, ou avec une vision, pas positive de la chose. C'était pas naturel, c'était une forme de perversion. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai fait mon coming out.
Ce qui est très fort déjà, parce que ça veut dire que de l'âge de 10 à 15 ans, vous avez vécu dans le plus grand secret votre attirance pour les garçons.
Absolument. Vu que le sujet n'était pas perçu positivement à la maison, j'ai préféré vraiment garder le secret pour ne pas que ça pose de problème.
Mais c'est courageux à 15 ans de prendre la parole dans un milieu que l'on sait, d'une certaine façon homophobe.
Oui, là-dessus, je veux pas qu'il y ait de stigmate sur les religions. Certaines personnes sont tout à fait ouvertes d'esprit sur ces questions, mais c'est vrai que dans un certain milieu, et à l'époque, en tout cas pour mes parents à l'époque, la vision de l'homosexualité était très négative. D'accord. Moi, de mon côté, ça s'est fait un peu de manière forcée. J'ai senti le besoin d'en parler à un moment particulier et j'avais pas du tout préparé la chose, quoi. Donc, quand ma mère a accueilli cette confidence, elle m'a curieusement un peu posé deux questions qui montrent bien l'état d'esprit de mes parents, qui étaient est-ce qu'un prêtre t'a déjà touché et est-ce que t'as déjà eu un rapport ? Ce qui montre bien qu'en fait, pour eux, à l'époque, ça vient de l'extérieur. On ne naît pas homosexuel pour eux. C'était un travers, quelque chose qu'on attrape un petit peu, comme une maladie.
Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Ou qu'est-ce que vous avez répondu en tout cas à votre mère quand elle vous a posé ces deux questions ?
À ces deux questions par la négative, parce que c'était pas du tout le cas, et elle m'a expliqué qu'à l'adolescence, ces choses pouvaient changer, qu'ils allaient m'aider, qu'ils voulaient que je sois heureux plus tard, et donc pour eux, évidemment, si on est homosexuel à cette époque, ils pensaient que si je tombais dans l'homosexualité, je serais malheureux, et comme mes parents m'ont très bien éduqué, eh bien, j'ai grandi dans un milieu accueillant et aimant, je leur ai fait confiance, tout simplement.
Quand justement vous avez fait votre coming out auprès de vos parents, est-ce que vous vouliez confesser une inquiétude, ce que vous considériez vous aussi au fond de vous, dans votre tête adolescente, comme une déviance ? Est-ce que vous vouliez assumer votre homosexualité ? Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là ?
Justement, j'étais partagée un peu sur tous ces plans-là,
Je comprends.
Puisque je sentais que, enfin, moi, j'avais envie que mes parents me connaissent entièrement. Je cachais une partie de moi-même à mes parents. En même temps, je voyais bien que c'était pas l'homosexualité était vue négativement. Donc, j'avais honte quand je leur ai dit. Mais je me suis sentie en fait coincée et tiraillée sur toutes ces sensations. Et c'est là où c'est sorti un peu tout seul, sans que je prépare rien. Et j'étais dans un état de faiblesse. C'est pour ça que je leur ai fait complètement confiance quand ils m'ont dit on va t'aider, qu'ils se sont renseignés et qu'ils ont trouvé ces fameuses sessions de guérison de blessures profondes.
Alors, les fameuses sessions de guérison de blessures profondes, autrement appelées thérapie de conversion, autrement appelées maltraitance, ça a duré 3 ans. On va se retrouver dans un instant puisque c'est 3 années où vous avez suivi des thérapies à coups de semaine ou de journée, vous allez nous raconter. Pour vous, c'est une grande impression de tomber dans le vide. Vous allez nous expliquer ce vide et puis surtout, aujourd'hui, cette façon que vous avez eue de vous en libérer, évidemment. On est en direct, à tout de suite sur RTL, Benoît.
Flavie Flamand sur RTL.
Et nous sommes en direct. Merci d'être avec nous en ce lundi. Aujourd'hui, on parle des thérapies de conversion car c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et il est quelque chose qui nous a indignés que vous pourrez retrouver demain soir à 20h50 sur Arte. C'est un documentaire éclairant, édifiant qui s'appelle Homothérapie et il est signé notamment Timothée Deroglaudre qui va nous rejoindre dans un instant. Il est co-auteur avec Jean-Louis Adenor du documentaire et d'un livre chez Flammarion Dieu est amour. Alors Dieu, il est un petit peu partout. Satan, il est pas mal là aussi. Et donc, ces thérapies de conversion, ça se présente effectivement comme des thérapies. J'irai des formes de stage. Je ne sais pas, peut-être allez-vous me contredire, Benoît, puisque vous avez vécu ça pendant 3 ans, qui veille à vous détourner de l'orientation sexuelle qui est la vôtre. Voilà, vous aimiez les garçons, vous l'avez dit, vous l'avez caché à vos parents jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, vous avez fait votre coming out et vous saviez que vous étiez dans un milieu qui ne comprenait pas l'homosexualité, qui ne la tolérait pas. Et pourtant, vous avez eu le courage de le faire. Et ensuite, effectivement, comme vous étiez affaibli, en toute confiance, vous avez donc suivi les directives de vos parents qui vous ont envoyé en thérapie donc de conversion. Notre invité aujourd'hui jusqu'à 15h30 est Patrick Papazian. Il est médecin sexologue. Patrick Papazian, est-ce que Satan ou Dieu sont dans notre sexualité ? À quoi elle tient notre sexualité ?
La sexualité, elle tient avant tout à l'identité de chacun et à ce qu'il est et à ce qu'il aime et à ce qu'il découvre, aimer, en général d'ailleurs pendant l'enfance, l'adolescence, donc jusqu'à l'âge de jeune adulte où il se construit. Et non, ça n'est pas dans le champ du médical, mais faisons notre mea culpa en tant que médecin. On a longtemps été tenté de médicaliser toutes les différences sexuelles et notamment l'homosexualité. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, Flavie, journée donc internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, mais cela fait donc qu'on fête aujourd'hui 30 ans de sortie de l'homosexualité du champ des pathologies au sein de l'Organisation mondiale de la santé.
C'était considéré comme une maladie, ça ne l'est plus depuis 30 ans.
Exactement, c'est rien 30 ans à l'échelle de la médecine, donc il y a toujours...
Est-ce qu'on peut changer son orientation sexuelle concrètement ?
Très clairement, non. Voilà. Alors ça, est-ce c'est un autre volet qui est très important, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça peut donner l'illusion de marcher pendant quelques semaines, quelques mois, et c'est ça qui est tout à fait terrible quand on entend ces récits, le récit de Benoît et le récit de certains de mes patients, c'est que de toute leur force, des fois ils essayent et ils arrivent à se convaincre un temps très limité que ça a marché, et parfois un temps moins limité qui les amène à mener des vies hétéros, parce qu'ils ont l'impression que ça y est, c'est fait, et le retour de bâton est toujours très
Je
violent
Je parle de
pour
maltraitance
eux. C'est de la maltraitance, c'est de la torture, tout ce qui nie ce que vous êtes intrinsèquement est de la torture caractérisée.
Benoît, est-ce que vous avez réalisé, vous, la première fois que vous êtes parti en thérapie de conversion, que vous partiez quelque part à l'échafaud d'une partie de vous-même ?
Pas vraiment. Et ces thérapies de conversion, comme on les appelle aujourd'hui, n'utilisent pas ce mot-là. C'est un mot qui est utilisé aux États-Unis, qu'on a traduit en français, mais qui porte très mal, évidemment, le nom, parce que c'est pas des thérapies et on n'en guérit pas.
Évidemment.
Il n'y a pas de guérison, de conversion. Et je rejoins complètement ce que votre expert médecin vient de dire. Moi, c'était sous forme de stage, un peu comme vous avez dit, mais il y a aussi des médecins encore, malheureusement, qui les pratiquent en cabinet. Il y a plusieurs formes, il y a des formes religieuses, médicales et même sociétales.
Alors, racontez-nous, vous, ce que vous avez vécu. Où est-ce qu'on vous a envoyé ?
Donc, ça se présentait un peu comme des sessions, comme des retraites, un petit peu. C'était le week-end ou en vacances scolaires, et on m'emmenait un peu dans un... des châteaux ou des monastères très reculés dans des lieux reculés avec des voilà, totalement isolée, avec des gens très très accueillants, très bienveillants, complètement convaincus qu'ils vont nous sauver, hein, vraiment. Et donc ils utilisent des méthodes qu'on appelle psychospirituelles, où il y a un mélange de pseudo-psychologie, alors qu'il n'y a pas du tout de fondement médical ou psychologique, hein, et de spiritualité, qui rendent ces choses très dangereuses. Mais à cette époque, moi, j'ai 15 ans, je demande pas le diplôme de la personne qui vient me voir. Je me fais confiance, et c'est des gens qui, comme ils sont très convaincus, eux-mêmes sont très convaincants.
Bien sûr.
Et donc, ça rend la chose très particulière.
Alors, comment est-ce qu'on essaye de vous convertir à une autre forme de d'inclination sexuelle? Comment on fait? Ça passe par quoi? C'est du bourrage de crâne? Ce sont des sessions de...
Ouais. Comme je disais, il y a plusieurs méthodes, mais ce qui s'est passé pour moi,
oui, pour vous,
c'est c'était très subtil et c'était très basé sur le mental. Certains ont vécu des exorcismes, des choses comme ça, moi
oui,
pas.
On en parlera
moi,
après.
C'était des rencontres très, très subtiles avec ce qu'on appelle un père spirituel qui vient un peu induire des graines de peur, qui vient présenter l'homosexualité comme une déviance, comme quelque chose d'extrêmement dégradant, avec des images stéréotypées complètement fausses. Et qui, en fait, la question induite là-dedans, c'est tu veux pas finir comme ça, quoi. Et ils viennent projeter en nous des images de peur qui font qu'on intériorise une énorme homophobie. On a envie de rejeter ça, surtout quand on se construit à l'âge de 15-18 ans.
Mais bien sûr.
Et voilà, donc c'est ce genre de choses qui est très perturbant, parce qu'en plus d'avoir la honte de venir se soigner, on ressent la culpabilité de comme dit le médecin, de voir ça pas changer. Et pour moi, ça se prononçait, puisque j'avais entre 18 et 15 ans, donc ma sexualité s'exprimait et se développait vers l'axe naturel, mais à l'époque, je le savais pas, de l'homosexualité. Donc, en plus de suivre ces thérapies très, très difficiles, parce qu'il faut tout dire, tout raconter, se mettre à nu psychologiquement, donner des détails vraiment très intimes sur sa sexualité, et il nous pose des questions du type... à quoi tu penses quand tu te masturbes, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vraiment, on touche à l'ordre de l'intime.
Hyper intrusif, ouais.
Exactement. Et donc, en fait, plus les séances avancent, plus moi, je voyais les choses ne pas évoluer au contraire. Donc, j'étais en plus pris entre la honte et la culpabilité de ne pas voir les choses changer. Parce qu'on se me disait, est-ce que je suis assez croyant? Est-ce que je fais bien tout ce qu'on me demande de faire? Et voilà, quoi.
Pauvre enfant. Et d'autant plus que tout ça sur fond de refus d'absolution, hein. Donc vous n'êtes pas lavé de ce péché, hein, on vous refuse ça.
Oui, alors ça c'était d'autre part quand j'allais me confesser à d'autres endroits et que je
ça
disais
m'a choqué, ça.
En toute honnêteté, ben voilà, enfin moi je ressens ça, je suis ça. Et j'ai pas, enfin, je le dis juste en toute simplicité, mais je vois pas comment les choses peuvent changer. J'avais un ce qu'on appelle un refus d'absolution, c'est-à-dire le prêtre décide quand on va se confesser. Normalement, on a l'absolution, c'est Dieu nous pardonne en fait, et le prêtre décide en toute conscience de ne pas nous donner ce qui est pour des chrétiens sacré. Et donc on me rejette pour quelque chose que je n'ai rien fait parce que je le ressens. Je décide juste que je peux rien y faire et que ça change pas. C'était la vérité puisque ça changeait pas. Et on me refuse quelque chose qui est très très précieux pour les chrétiens, quoi. Donc ça a été une violence.
Ah,
je me rappelle qu'en sortant de ça, je pleurais. Et c'est là où ma mère m'a raconté plus tard qu'elle avait été choquée de me voir complètement effondrée, pleurer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, quoi, à l'époque.
Alors, on va se retrouver dans un instant, Benoît. Timothée de Roglaudre, donc, qui est co-auteur du documentaire, va pouvoir intervenir. Et puis, on va voir effectivement le comportement de votre famille et comment vous avez pu vous en sortir et comment tout le monde en est ressorti, évidemment marqué, mais grandi aussi, puisque vous vous êtes engagé aujourd'hui. À tout de suite, Benoît.
Jusqu'à 15h30, Flavie Flamand sur RTL.
Allez, merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. Vous entendez parler peut-être pour la première fois de ce qui est appelé, j'ai beaucoup de mal à le dire, des thérapies de conversion. Voilà, ça se prétend être une thérapie, c'est une sorte de stage en fait, qui s'adresse à des jeunes et des adultes aussi, hein, on va y revenir, homosexuels, et qui, ces thérapies qui prétendent pouvoir leur faire emprunter un chemin d'une autre sexualité, et donc c'est une façon de se renier soi-même, et c'est qualifié par certains spécialistes de maltraitance, effectivement, et de torture. Et c'est encore légal aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des associations bien souvent religieuses, hein, on va pas se mentir, qui ont pignon sur rue et sur internet et qui proposent leurs services d'une façon très subtile. Mais tout ça, ça fait des dégâts. Benoît Berthe, vous venez de témoigner d'une façon très claire et édifiante il y a un instant sur cette antenne. Timothée de Roglaudre nous rejoint. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes co-auteur justement avec Jean-Louis Adenor de ce documentaire Homothérapie que l'on retrouvera demain soir à 20h50 sur Arte, mais que l'on peut déjà retrouver sur arte.fr. Je vous ai dit tout à l'heure, ce documentaire, il faut absolument le voir et en même temps, quelque part, c'est un documentaire qui provoque un haut-le-cœur, une forme de nausée de se dire que c'est encore possible en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'aller à la rencontre de Benoît Berthe et de mettre en lumière cette maltraitance?
Nous, en fait, Benoît, on l'a rencontré assez tardivement dans notre enquête, puisque quand on a commencé en mars 2017 à s'intéresser au sujet, on n'était pas du tout sûr de ce qu'on allait trouver. On savait que c'était des choses qui existaient aux États-Unis, puisque là-bas, c'est des pratiques qui sont complètement... assumer le rapport à la religion est beaucoup plus décomplexé. Et on s'est posé la question, est-ce que ces pratiques existent aussi en France? Donc on a un petit peu remonté le fil d'associations, notamment une association évangélique qui s'appelle Torrent de Vie, une association catholique qui s'appelle Courage. Et en fait, on a découvert que ces programmes-là avaient été importés depuis 30 ans en France. Et donc il y avait bien des sessions, des stages, des confessions, toute une série de pratiques justement entre le pseudo-psychologique et le spirituel qui existent en France. Et on a fait ensuite la rencontre de Benoît et son témoignage a été vraiment très important et vraiment déclencheur, puisque d'abord c'est une histoire qui est touchante, c'est une histoire qui est assez belle, puisque ses parents qui l'avaient envoyé dans ses sessions ont fini par l'accepter
comprendre.
Tel qu'il est et même rejoindre son combat. Donc
voilà.
c'est quelque chose d'assez magnifique, et aujourd'hui il est engagé, il va peut-être vous en parler,
le
au sein d'un collectif Rien à guérir avec une trentaine de d'autres victimes. Donc aujourd'hui ce qui est très beau, c'est que ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille dessus, et aujourd'hui on voit qu'il y a une vraie libération de la parole. Il y a des dizaines de personnes qui prennent la parole sur ce qu'ils ont vécu dans des milieux extrêmement différents. Donc on voit que les choses avancent au moins sur ce terrain-là, pas sur tous les terrains, mais...
Et c'est une forme d'engagement aussi, hein, qui est le vôtre et qui est sorti également chez Flammarion avec le livre Dieu est amour. C'est une enquête édifiante. Benoît, effectivement, cette histoire, c'est aussi une histoire de résilience pour vous, pour vos parents, un engagement pour ce collectif Rien à guérir que l'on conseille à tous ceux qui nous écoutent. Il faut aller voir, hein, ce qui est Rien à guérir. Ce qui vous a sauvé, c'est quoi? Ce sont les études que vous avez faites progressivement, cette façon de vous affranchir aussi, j'imagine, du regard de l'autre et de vous éloigner et de partir à Londres, hein.
Oui, je pense qu'il y a 3 choses. D'une part, je me suis fait confiance à un moment donné. J'ai juste senti que je me sentais très mal là-bas. Déjà, c'est une chose. Le fait de devenir majeur et de faire mes études à Paris, puis ensuite partir à Londres, c'est une autre chose qui m'a un peu libérée, parce que j'ai pu découvrir par moi-même ce que c'était l'homosexualité, rencontrer des personnes qui vivent la chose et qui m'ont raconté leur vie. Là,
et qui étaient heureux.
Compte.
Ouais.
Voilà, exactement. On m'a raconté des vies, heureuses ou malheureuses, mais comme tout le monde, je veux dire. C'est-à-dire, être heureux ou malheureux, ça ne dépend pas de la sexualité. J'en rigole aujourd'hui tellement ça paraît fou, mais à l'époque, c'était vraiment l'idée. Et donc, il a fallu que je rencontre et que je parle avec une cinquantaine de personnes par Internet à l'époque, parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de rencontrer des personnes homosexuelles parce que j'avais cette homophobie intériorisée que m'avaient donné ces thérapies, en fait.
Vos parents...
Ça, c'est le troisième axe. Je pense que si mes parents n'avaient pas fait ce pas vers moi, au bout de plusieurs années, hein, ça a duré très longtemps déjà pour me reconstruire de ma part, et ensuite eux d'avoir fait l'effort aussi de comprendre qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient été eux-mêmes trompés par leur milieu culturel et religieux, et de faire ce pas vers moi, je ne pourrais pas librement parler comme je le fais. Beaucoup de personnes dans notre collectif Rien à guérir ne peuvent pas parler comme je le fais, parce qu'il y a encore des tensions dans la famille, dans le milieu religieux ou autre, la communauté qui les entoure. Et donc pour moi, ça a été une énorme preuve d'amour, curieusement, que mes parents ont fait après m'avoir fait mal, mais mes parents m'ont fait mal en pensant vraiment bien faire. Toute la tristesse de cette histoire.
Et c'est ce que l'on ressent dans le documentaire, hein, c'est que ce sont des croyances complètement pardon, mais déplacées, mais qui sont des croyances profondes. Et on sent une grande vulnérabilité dans les parcours des uns et des autres.
Oui, alors je ne voudrais pas non plus... Enfin, il y a des mes parents sont pratiquants, croyants, mais ils ne sont pas intégristes non plus. Alors, il faut pas, je pense, il faut faire très attention.
Je vous parle des victimes, moi. Je vous parle
oui,
des victimes.
Absolument.
Je ne vous parle pas de ceux qui tendent les pièges. Ouais.
Non, mais voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour pouvoir libérer la parole et parler aujourd'hui, quoi.
Eh ben, en tout cas, vous l'avez fait sur cette antenne. Moi, je vous remercie. Pourquoi j'arrive pas à parler, en fait? Je vous remercie, Benoît Berthe, d'avoir témoigné aujourd'hui sur cette antenne depuis Londres. On vous retrouve demain, sur Arte, dans ce documentaire. Et on conseille évidemment ce collectif Rien à guérir. Merci beaucoup, Benoît.
Merci beaucoup.
À bientôt sur RTL. On se retrouve juste après.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Et en cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, nous avons choisi de vous parler de pratiques encore légales en France. Ça s'appelle les thérapies de conversion. Ça porte d'autres noms. J'ai beaucoup de mal en fait, Timothée de Reglautre. Vous êtes donc le co-réalisateur d'un documentaire actuellement sur Arte.fr, demain soir 20h50 sur Arte. J'ai du mal à trouver un nom pour ce que j'ai vu et découvert dans votre documentaire.
Oui, il y a un peu un débat sur la terminologie. Juste une toute petite correction, je suis co-auteur du documentaire et il a été réalisé par Bernard Nicolas, justement.
Très bien.
Rendre à César. Sur la question de l'appellation, nous, on y a beaucoup réfléchi. En fait, on utilise le moins possible l'expression thérapie de conversion.
Ah voilà. Quelle est la bonne pour parler de ça?
Nous, on va plutôt parler de thérapie de guérison ou d'homothérapie. Ça, c'est un petit peu un néologisme qu'on a forgé pour le titre du documentaire. Et donc en fait, le problème avec l'expression thérapie de conversion, c'est que donc elle tire son origine des États-Unis dans l'après-guerre, où justement la médecine et la psychiatrie étaient encore largement imprégnées d'homophobie et utilisaient des techniques de torture, en fait, des électrochocs, de la castration chimique,
de la lobotomie. On voit des images dingues dans votre documentaire. Ouais. Hein.
Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont quand même taries dans les pays occidentaux, parce que justement, ça a été dépsychiatrisé. On a dépsychiatrisé l'homosexualité. Et aujourd'hui, donc, ça va plutôt être des méthodes qu'on peut penser plus soft, qui vont être tout aussi violentes psychologiquement, mais qui vont plutôt être justement un mélange entre des théories psychologiques complètement dévoyées sans aucun fondement scientifique, où on va aller chercher dans l'enfance des origines de la déviance que serait l'homosexualité, donc des abus
parents,
sexuels, le rapport aux parents. On va même parfois remonter la généalogie de la personne pour essayer de trouver là où la malédiction s'est abattue sur la lignée pour guérir cette malédiction. Et de l'autre côté, donc... On va avoir une interprétation très fondamentaliste de la Bible. Enfin, en l'occurrence, même si ça existe aussi dans les autres religions, mais en l'occurrence, nous, on a travaillé sur des groupes chrétiens. Donc, on va utiliser quelques versets, sachant que Jésus n'a jamais parlé d'homosexualité dans les évangiles. On va plutôt utiliser la Genèse, l'évangile de Paul, etc. Enfin, une interprétation très rigide, en fait, qui est remise en cause très largement par des théologiens aujourd'hui. Et donc ça va donner justement ces sessions où on va alterner, par exemple chez Torrent de Vie, on va alterner entre groupes de parole et enseignements. Torrent de Vie, donc une association évangélique, et dans les groupes de parole, les personnes vont se confier un peu sur leur vie familiale, leur manière de vivre leur homosexualité, et on va alterner avec des enseignements religieux où, par exemple, on peut entendre que il faut renoncer au démon de l'homosexualité. Et en fait, on va utiliser les noms de dieux anciens, en fait, de dieux païens de l'Antiquité, pour les présenter comme des démons. Donc c'est Baal et Astarté, hein, si vous voulez leur nom. Et on va justement demander aux gens de renoncer à ces démons-là. Et donc Jean-Louis Adenor, mon co-auteur, qui s'est infiltré chez Torrent de Vie, a entendu dans le camp où il s'était infiltré, a entendu un exorcisme, en fait, un cri, alors qu'il était dans le parc, en groupe de parole, il a entendu...
On parlera de la pratique de l'exorcisme avec Jean-Michel Dunant, qui va nous rejoindre et qui, lui, en a vécu, subi 8. Marion nous écrit, je ne savais même pas que ce genre de choses existait encore de nos jours. Stéphanie sur Facebook, et très souvent tout cela au nom d'un Dieu qui est censé être amour et nous aimer tous tels que nous sommes. Et Christelle, quand mon épouse Céline a annoncé qu'elle était amoureuse de moi à ses parents, le médecin de famille leur a conseillé d'emmener mon épouse voir un psy pour la soigner. Elle a refusé sur mes conseils, mais ses parents l'ont quand même emmenée à Lourdes pour espérer une guérison. Je vous jure que c'est vrai, ce n'est pourtant pas si loin. C'était en 2004. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans le documentaire, Patrick Papazian, et dont vous devez forcément entendre parler, c'est ce côté sectaire. Il y a du bourrage de crâne, il y a de la culpabilité, il y a effectivement de la peur et ce sentiment d'un piège qui se referme avec des méthodes d'asservissement à une pensée. On joue le chaud, le froid, des moments de joie, de communion, donc qui éveillent effectivement sûrement un sentiment de fraternité, de sororité, pour finalement retomber sur le couperet du jugement. C'est un endoctrinement.
C'en est absolument un. Tout est perverti à tous les niveaux dans ces thérapies, entre guillemets. Et Timothée l'a très très bien décrit. C'est-à-dire qu'il y a déjà une finalité, ce qui est déjà très choquant en tant que soignant. Moi, je dois dire que je suis révolté et profondément triste, et c'est d'une sincérité totale, quand j'entends tout ça, parce que quand on décide d'être soignant, de faire de la thérapie, thérapie ça veut dire servir, ça veut dire soigner, ça veut dire être au service de l'autre, de quelqu'un qui souffre, et entendre tout ça, c'est-à-dire se dire qu'on va aller mettre en place une méthode qui n'est pas une méthode, avec une finalité qui est clairement affichée dès le départ, donc on biaise absolument tout et on va en plus sur un terrain fragile, c'est-à-dire ces fameuses années de construction de l'identité homosexuelle ou transsexuelle, puisque parlons des personnes trans, c'est important aussi bien sûr, et donc ces années en gros de l'adolescence ou de l'enfance où on découvre qu'on est différent, où on essaye de se construire dans un monde hétéronormé, où on cherche des repères, on cherche des représentations positives de tout ça, et où du coup on essaye même de faire soi-même une sorte de thérapie en se disant tout le monde l'a vécu, pour peu qu'il soit homo ou trans.
Bien sûr.
Allez, j'essaye très fort, peut-être que je vais pouvoir me changer. Et puis on sait bien que c'est pas possible. Et quand vous avez cet écho qui vous dit, mais si, et on va t'aider, et avec un grand sourire, là c'est terrible, parce que le traitement devient vraiment un poison qui va s'infiltrer en vous.
Et rapidement, il faut qu'on le précise aussi, parce que là on parle de ces jeunes qui sont envoyés par leurs parents, mais il y a aussi des adultes qui ont une vie affichée, une sorte de devanture d'existence hétérosexuelle, et qui souffrent le martyr d'avoir une attirance pour des personnes du même sexe et qui se tournent vers ce genre de collectif.
Effectivement, ça c'est quelque chose qui nous avait beaucoup surpris en commençant notre enquête, c'est qu'on avait un petit peu le cliché américain en tête. Ouais. Il y a eu plusieurs films dessus, donc des jeunes, parfois mineurs, qui sont envoyés dans des camps par leurs parents de manière forcée, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, ce que Jean-Loup a vu en infiltration, ce qu'on a vu en parlant avec des victimes, c'est pas du tout ça. C'est des personnes qui, justement, poussées par soit par leur milieu religieux, soit par leur propre conversion. Parfois, c'est des gens qui sont arrivés en religion parce qu'ils cherchaient un moyen de guérir leur homosexualité. Et donc, chez Toi en vie ou chez Courage, ça va plutôt être des cadras ou quinquagénaires. Quelques trentenaires quand même, mais des personnes de tous les âges, et beaucoup justement de gens qui depuis des décennies se répriment.
Ça fait mal, hein.
Ouais.
Et
effectivement, et nous, il y a aussi un Benoît disait tout à l'heure qu'il fallait pas amalgamer tous les croyants et tous les religieux. Et je le rejoins complètement là-dessus, puisqu'il y a depuis plusieurs décennies, il y a des groupes qu'on appelle chrétiens inclusifs qui militent pour l'acceptation de l'homosexualité dans les églises. Et dans ces groupes-là, on a aussi rencontré des personnes qui avaient lutté contre elles-mêmes pendant plusieurs décennies et qui finalement avaient réussi à trouver ces cercles accueillants pour être eux-mêmes.
On va se retrouver dans un instant avec Jean-Michel Dunant, que l'on retrouve aussi dans votre documentaire. Jean-Michel, lui, il a vécu des exorcismes. Et il est le fondateur de la communion Bethany. À tout de suite.
Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
On est sur RTL, on est en direct jusqu'à 15h30. On est en train de poursuivre donc notre conversation avec nos invités hors antenne. Merci d'être avec nous. On parle de ce que l'on appelle... Pardon, mais c'est ainsi effectivement que tout le monde les appelle les thérapies de conversion. Jean-Michel Dunant, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes fondateur de la communion Bethany, une fraternité chrétienne de prière au service des personnes homo et trans. Et vous êtes une ancienne victime, parce qu'on peut le dire en fait, hein, on est victime de thérapie de conversion. Vous avez vécu ce que l'on appelle un exorcisme. Huit exorcismes, j'étais en train d'en parler en antenne en disant mais c'est dingue. De se dire que Satan, qu'on nous mette dans l'esprit que Satan est dans notre sexualité?
Oui, ça paraît irréel, hein, Flavie. Oui. Ça paraît des pratiques moyenâgeuses. Malheureusement, ça existe encore. Oui. Nous avons des témoignages très récents. J'en ai encore eu un il y a quelques jours. Ça existe encore dans de nombreuses communautés, dans des individus continuent à proposer cela. Moi, si vous voulez, j'ai vécu un parcours de la honte qui a fait que ma parole a été claquemurée, a été dans un mutisme pendant de longues années. Et lorsque j'ai commencé à parler dans un milieu d'église en disant que je voulais être homosexuel chrétien, c'est-à-dire correspondre à ce que l'Église catholique propose en termes de doctrine aux personnes homosexuelles, à savoir pas de sexualité du tout, eh bien on m'a accueilli, comme le disait très bien tout à l'heure Benoît, et on m'a proposé d'abord une prière de guérison, c'était relativement light si je puis dire, ensuite prière de délivrance. Et puis on est passé effectivement, après une rencontre avec un prêtre qui avait un certain aura à l'époque, à me proposer des exorcismes. Et là où le mot victime est profondément pertinent et juste, c'est que moi je me considère aujourd'hui comme une victime d'emprise spirituelle. Oui. L'emprise, c'est le vol et le viol de votre « je » finalement. Oui. Donc moi j'ai toujours dit oui à ce que l'on m'a proposé, mais finalement on a volé mon jeu et j'étais très fragilisé à la fois physiologiquement, psychologiquement, et on a voulu extraire de mon corps et de mon esprit le démon de l'homosexualité. Ça paraît irréel, mais c'est pourtant la vérité de mon vécu.
Et les images dans le documentaire sont absolument édifiantes. Jean-Michel Dunon, vous vouliez épouser une carrière, je dirais, d'engagement spirituel. Aujourd'hui donc vous êtes le fondateur de la communion Bethany. Je me suis effectivement ce week-end, j'ai regardé en fait tout ce que vous faisiez, et c'est une réponse dans l'église à une église défaillante sur cette question.
Alors écoutez,
si je
c'est
puis le dire
modeste...
comme ça, pardonnez-moi.
Oui, ce que vous me dites me touche beaucoup, mais c'est une modeste réponse. Si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'institution, je suis chrétien moi-même, catholique, mais l'institution sorte d'une certaine paresse exégétique. Il faut qu'elle s'empare de l'interprétation des textes. Elle le fait dans beaucoup d'autres domaines, elle doit le faire là, parce que l'enjeu, voyez-vous, l'enjeu des thérapies de conversion, si vous voulez, c'est le sommet de l'iceberg. Derrière tout ça, sous tout cela, il y a de l'obscurantisme religieux. Timothée faisait allusion tout à l'heure, il y a des interprétations fondamentalistes de textes, et c'est vrai dans le christianisme comme dans d'autres religions, comme dans d'autres courants spirituels. Donc il faut qu'on sorte de cette paresse pour donner une interprétation intelligente des textes. Il faut libérer combien de jeunes qui ont un vrai désir spirituel en dehors même de toute religion, et qui aujourd'hui ont peur de se laisser avoir par cela, parce que ce sont des véritables caricatures de la vie spirituelle véritable, de l'intériorité. Donc la communion Bethany, elle essaye d'offrir cet espace à la fois d'accompagnement, de prière, de vie intérieure. Je n'aime pas trop le mot accueil, parce que moi, on m'a toujours accueilli. Et dans le milieu chrétien, accueillir, c'est un gargarisme. Je préfère parler du mot estime. Estimer une personne, c'est l'aimer profondément dans toutes les dimensions de sa vie, dans sa vie affective, sexuelle et autres, voyez. Et accueillir, c'est un peu trop superficiel, surtout en ce moment où on se gargarise beaucoup de ça dans les milieux catholiques en particulier.
Eh bien, merci en tout cas pour cet éclairage qui est le vôtre, Jean-Michel Dunon, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans ce studio pour parler davantage de ces sujets. C'était très intéressant, donc je rappelle la communion Bethany, fraternité chrétienne de prière au service des personnes homo et trans. Merci beaucoup Jean-Michel Dunon.
Merci Flavie, merci à vous. Merci à vous.
À bientôt sur RTL. Dans un instant, c'est Laurence Vansenbrock qui sera avec nous. C'est une députée de l'Allier, et c'est elle qui a déposé une proposition de loi visant à interdire ces fameuses thérapies de conversion. À tout de suite.
14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Vous avez peut-être entendu la reine Elisabeth s'exprimer sur notre sujet du jour. C'était la semaine dernière. Elle a confirmé l'interdiction prochaine des thérapies de conversion en Angleterre. La reine Elisabeth. Alors, tout le monde s'engage aujourd'hui. En tout cas, on parle donc des violences qui sont faites aujourd'hui aux personnes LGBT en cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et pourtant, en toute légalité, il existe aujourd'hui des thérapies de conversion en France. Et le documentaire Homothérapie que vous retrouverez demain sur Arte et déjà sur arte.fr, ou le livre Dieu est amour, coécrit avec Jean-Louis Adenor, par Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre, mettent en évidence un combat qui est mené aussi par Laurence Vansenbrock. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous.
Oui, merci à vous de me recevoir.
Vous êtes député de l'Allier, vous êtes membre de la commission des affaires sociales et vous avez déposé une proposition de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion. Donc ça vient d'être fait en Angleterre et pourtant, l'examen de cette proposition de loi n'est toujours pas à l'ordre du jour, à moins effectivement que vous puissiez réactualiser mes infos.
Alors malheureusement, je ne pourrai pas réactualiser vos infos puisque pour l'instant, moi non plus, je ne sais pas à quelle date nous pourrons donc discuter de cette proposition de loi dans l'hémicycle.
Bon, pour vous, c'est un engagement profond, une indignation qui est la nôtre quand on ignorait l'existence de ces thérapies de conversion. Qu'est-ce qu'elle propose ? Qu'est-ce que propose votre texte ?
Alors déjà, de définir ce que sont que les thérapies de conversion, à savoir des pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le terme thérapie est impropre. Il ne s'agit pas de soigner l'homosexualité ou les personnes transgenres. Donc voilà. Et puis de prévoir également des peines, donc 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et puis aussi, enfin, d'inscrire quelque chose de lisible dans le code pénal, parce que jusqu'à présent, les victimes de cette pseudo-thérapie ne peuvent déposer plainte que pour des violences volontaires, que pour de l'abus de faiblesse ou éventuellement du harcèlement. Mais en aucun cas, les victimes de ces thérapies ne sont reconnues comme telles par le code pénal.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Comment est-ce possible encore en France que ça existe, Laurence Ronsonbrock?
Eh bien écoutez, je n'y comprends rien, j'avoue, parce que c'est quand même... On est bien d'accord que c'est complètement incompréhensible, d'autant que moi j'y travaille en France depuis 3 ans et demi maintenant sur le sujet, et que par ailleurs mon texte a été repris par l'ensemble du groupe de La République En Marche, et que malgré tout, voilà, alors je suis entre guillemets promenée dans le calendrier parlementaire, parce qu'en décembre de l'année dernière, donc Christophe Castaner m'avait proposé d'en discuter en février ou en mars de cette année, ça a été repoussé dans un premier temps en mai, et puis là voilà, donc cette fois-ci on me parle qu'éventuellement il y aurait une place peut-être en décembre de cette année donc pour en discuter. Donc je regrette effectivement ce report régulier de l'inscription de ce sujet dans l'hémicycle, pardon.
Et une cause extrêmement importante, Patrick Papazian. Qu'est-ce qui va faire à un moment donné? C'est quoi? C'est une indignation générale? Ce sont des documentaires comme Homothérapie, des livres qui vont nous alerter sur...
Absolument, mais c'est surtout pendant ce temps. Mais c'est ça, pendant ce temps, ce sont des jeunes et des moins jeunes, comme l'a très bien dit Timothée, qui souffrent, qui vont faire des dépressions, qui vont se faire des tentatives de suicide ou se suicider. C'est ça la réalité des choses. Moi, j'ai eu quelques patients qui étaient passés par ce cheminement et qui d'ailleurs avaient du mal à mettre des mots et qui ne parlaient pas de thérapie de conversion. Mais quand on voit les dégâts que ça fait, je pense que c'est urgent d'agir et en parallèle de développer des modèles positifs sur l'homosexualité et pour les personnes trans. Il faut agir sur ces deux fronts. On ne peut pas agir que sur un. Mais l'action légale sur ces thérapies, entre gros guillemets, me semble fondamentale.
Et vous y participez avec votre documentaire et votre livre, Timothée.
Oui, tout à fait. Donc du coup, j'invite tout le monde à regarder Homothérapie demain soir sur Arte si c'est pas encore fait. Et effectivement, sur les conséquences, c'est important de le rappeler que nous, beaucoup de victimes à qui on a parlé nous ont parlé des tentatives de suicide qu'elles avaient pu faire. Et pour l'instant, on n'a pas de cas documentés en France et on espère, on touche du bois. Mais aux États-Unis, par exemple, fin 2019, il y a une jeune américaine de 24 ans, Alena Chen, qui s'est suicidée dans le Colorado après avoir suivi une thérapie de conversion dans un milieu catholique organisé par un diocèse catholique, ce qui est extrêmement grave. Et plus proche de nous, en 2009, en Belgique, il y a une jeune femme de 18 ans qui vivait dans une famille musulmane très conservatrice qui est morte des suites de brûlures suite à un exorcisme islamique parce que sa mère voulait la guérir.
Merci beaucoup. Merci Laurence Ronsonbrock. On se tiendra au courant du suivi de cette proposition de loi qui vise donc à interdire les thérapies de conversion. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur RTL. Merci beaucoup Patrick Papazian. C'était important de vous entendre sur ce sujet aujourd'hui en
merci
tant que médecin sexologue. Timothée de Roglaudre, on salue Jean-Louis Adenor et vous êtes donc les co-auteurs d'Homothérapie demain sur Arte et Dieu est amour, co-écrit donc avec Jean-Loup, que l'on retrouve aux éditions Flammarion. Tout ça, c'est édifiant. Merci à tous pour cette heure éclairante dans laquelle vous êtes très nombreux à avoir appris. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL pour de nouvelles conversations. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. À demain.